Chapitre 28. Lorsque le grand hibou se présenta chez Cyriane, Léonie comprit instantanément à son air hagard, à sa mauvaise mine, à ses gestes nerveux, que quelque chose n'allait pas. Il transpirait, ses vêtements noirs étaient maculés et chiffonnés, une barbe de plusieurs jours ombrait ses joues, ses cernes s'étaient creusées, ses cheveux mouillés collaient à son front et à ses tempes. Il fonça vers la cuisine, se servit un fond de café tiède qu'il but d'une traite avant d'allumer une cigarette.
« Pas la peine de tourner autour du pot, » fit-il en posant ses yeux couleur d'eau sale sur Léonie. « Vous n'auriez pas pu prendre l'initiative de m'appeler pour vous sortir du commissariat du 12e. Vous n'auriez pas eu l'idée de me contacter pour obtenir des papiers. Vous n'auriez pas pu entrer dans cet appartement sans les codes. J'en déduis que vous communiquez avec votre voyageur clandestin. »
Léonie ne répondit pas sur ses gardes. Elle avait laissé la veille un message sur le répondeur du grand hibou. Elle s'était couchée de bonne heure. Elle avait bien dormi dans l'immense lit de Cyriane, malgré la sensation persistante d'être épiée de l'intérieur. Elle avait rêvé d'un jeune homme blond à la peau sombre, vêtu du survêtement des Bulls. Elle s'était réveillée couverte de sueur, inquiète. Elle avait fait du café, mangé des tranches de pain de mie grillé avec du beurre et de la confiture, s'était habillée après avoir pris une douche et tiré sur ses vêtements pour les défroisser.
« Vous savez donc que vous n'êtes pas en train d'expérimenter une molécule. Normalement, il faut beaucoup plus de temps que ça pour établir une véritable communication entre le voyageur et son corps d'emprunt. Mais le transfert d'âme est une science débutante, n'est-ce pas? On est loin de maîtriser tous les paramètres. »
Le grand hibou fuma quelques secondes en silence, la tête renversée, les fesses posées sur le bord du bar.
Pour vos papiers, il vous faudra attendre un peu.
Il écrasa la cigarette dans la tasse qu'il venait de vider. Il y a plus urgent. La confrérie a l'intention de déménager le translateur aujourd'hui. Il consulta l'écran de son téléphone portable.
Nous n'avons donc qu'un peu moins de 3 heures pour retourner au laboratoire et ramener Cyriane dans son corps d'origine.
Dis-lui que j'ai payé pour un voyage de 4 jours.
Il a payé pour 4 jours.
Le grand hibou se pencha sur Léonie et la dévisagea comme s'il voulait loger tout entier dans ses yeux. C'est Cyriane qui parle par ta bouche, n'est-ce pas?
Elle garda les lèvres closes, intimidée par l'agressivité soudaine de son interlocuteur.
« Écoute-moi bien, Cyriane. Si nous ne filons pas maintenant au labo, nous risquons de ne plus pouvoir utiliser le translateur pendant un bon bout de temps. Trop longtemps, en tout cas, pour que tu te souviennes un jour de ton corps d'origine. Tu resteras jamais piégé dans le corps de cette fille. C'est vraiment ça que tu veux ?
Dis-lui que c'est d'accord, mais qu'il doit quand même te payer ta part.
C'est d'accord, mais vous devez quand même payer ma part. » Le hibou toisa Léonie avec un mépris qu'elle avait déjà entrevu dans les yeux de certains clients de tente destinée, les porcs.
« Bien sûr qu'elle recevra sa part. Allons-y maintenant, il n'y a pas un instant à perdre. Le taxi nous attend. »
Léonie fut inondée d'une peur soudaine et glaciale qui ne venait pas d'elle. « On n'a pas le choix, il faut le suivre. On aura le temps du trajet pour réfléchir. »
« Réfléchir, mais à quoi ? » ?»«
Je n'ai pas confiance en lui. Il n'est pas dans son état normal. » L'inquiétude de son passager contamina Léonie qui se crispa quand le grand hibou la prit par le bras. « Ne résiste pas. Tu risques seulement de stimuler sa violence. On doit de toute façon se rendre au labo. »«
De quoi tu as peur alors ?»«
Je ne sais pas, au juste. C'est seulement une impression, un mauvais pressentiment. »« J'ai probablement tort. Il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Suis-le. »
Le bras brûlé par la poigne du grand hibou, Léonie se dégagea d'un mouvement d'épaule. Elle hésita encore à lui emboîter le pas.
La conversation avec son bébé de 21 grammes, plus facile pour elle d'imaginer son passager en bébé de 21 grammes qu'en gaillard blond d'un mètre 88 ou 9, ne l'avait pas rassurée. Elle ne parvenait pas à faire confiance au grand hibou. Il lui rappelait les clients de tente destinée. Elle faillit rebrousser chemin dans l'escalier, gravir les marches 4 à 4, se cadenasser dans l'appartement. Mais elle avait bien compris que son passager et elle risquaient de ne plus pouvoir se séparer, qu'ils seraient 2 âmes à partager son corps jusqu'à la fin de ses jours, et que la cohabitation finirait par la rendre folle, même si pour l'instant, elle offrait certains avantages et qu'elle trouva son hôte plutôt agréable. Elle supposait qu'un corps était conçu pour n'héberger qu'une seule conscience, sinon la possession n'aurait pas été considérée comme une malédiction. Et notre histoire n'a rien à voir avec une possession. La possession, c'est la prise de contrôle d'un être humain par une entité démoniaque. Moi, je ne cherche pas à te contrôler. Je voulais seulement découvrir le monde à travers tes yeux.
Et comment il est, le monde vu par mes yeux?
Le même que celui que je vois par les miens. Et pourtant tellement différent.
Vous m'aviez dit 5 minutes, monsieur, j'ai bien failli partir!
Grommela le chauffeur, un asiatique aux yeux escamotés par d'énormes lunettes de soleil, malgré la pénombre.
Une mantille sombre s'était déployée sur la ville, qui étouffait la lumière du jour. Des gouttes épaisses dégringolèrent. Le grand hibou et Léonie s'engouffrèrent dans le taxi. La voiture se frayait un chemin difficile dans un trafic rendu totalement incohérent par le mauvais temps. Le chauffeur se contentait de pousser des soupirs bruyants et brefs. L'indiscipline légendaire des Parisiens, leur manie de prendre leur voiture dès qu'ils avaient plus de 100 mètres à parcourir, leur agressivité, avaient découragé la municipalité de chercher une solution efficace aux problèmes de circulation. Un projet de péage avait été repoussé pour éviter la grogne d'un cinquième du peuple français avant les élections présidentielles et législatives. Conciliant avec la population de l'intérieur, impitoyable pour les populations de l'extérieur, tels se présentaient les programmes minimalistes de la plupart des candidats. Pratiquement rien sur les délocalisations accélérées, rien sur la fin programmée du travail productif, rien sur la fuite des élites dans les paradis fiscaux, rien sur l'écart grandissant entre la minorité possédante et la majorité appauvrie, rien sur le système de santé en pleine déliquescence, rien sur les gigantesques flux d'argent transitant par les bourses. Je suis un pur produit du système. Mon père délocalise et se débrouille pour mettre de l'argent sur des comptes secrets. Ma mère assure la bonne conscience de la famille en marrainant 2 ou 3 associations. Ma sœur dépense chaque mois 5 ou 6 000 euros en fringues et en chaussures. Nous possédons plusieurs maisons en province et un immeuble à Paris. J'ai les moyens de me payer des voyages à 15 000 euros. De quoi tu te plains alors?
Je ne me plains pas.
Je plains les gens comme toi.
Je ne me plains pas?
Je sais, et c'est ce qui m'étonne le plus en toi.
Au fait, tu n'avais pas dit que tu réfléchirais pendant le trajet?
Je réfléchis, figure-toi. Il pleuvait à verse lorsque le taxi arriva enfin dans le 12e arrondissement, après avoir changé d'itinéraire à 3 reprises. Le grand hibou demanda au chauffeur de les déposer à l'entrée de la rue et régla la note. Ils durent courir sous une pluie battante pour franchir les 300 mètres qui les séparaient du bâtiment délabré, croisant des silhouettes courbées sur le trottoir quasiment inondé. Léonie était trempée de la tête aux pieds en arrivant devant la porte du laboratoire.
C'est maintenant qu'il va falloir faire gaffe. Johannes va te proposer une piqûre. Elle est sans doute nécessaire lors du premier rendez-vous pour neutraliser les défenses du corps et permettre le transfert. Mais je ne crois pas qu'elle le soit lors du second rendez-vous. Le corps d'origine n'a aucune raison de repousser l'âme qui lui est propre. À mon avis, l'anesthésie ne sert qu'à empêcher le corps d'emprunt d'être conscient du processus et donc de deviner qu'il renfermait une deuxième âme. Il suffit sans doute que les deux corps soient dans le même endroit. Johannes m'a dit que...
Bon Dieu! Deux hommes venaient de surgir d'un renfoncement pendant que Johannes pianotait sur les touches du digicode. L'un d'eux portait un costume clair et un chapeau détrempé dont les bords ployés dissimulaient en partie son visage. Le deuxième, un noir aux crânes rasés et aux énormes boucles d'oreilles vêtues d'une veste en cuir, fondit sur Johannes, l'agrippa par le col, le tira violemment en arrière, le projeta au sol et lui posa un genou sur la gorge.
« On vient récupérer ce qui nous appartient, mec !» gloussa l'homme au chapeau. Cette voix... Le sang de Léonie se gela. Elle l'aurait reconnu entre 1000. Qui est-ce? Qui est-ce? Comment l'avait-il retrouvé? Qui est-ce, bordel?
L'homme releva le bord de son chapeau et fixa Léonie avec un sourire narquois. Peau légèrement plus claire que son acolyte, nez long et fin, dents immaculées, blanc des yeux teintés de jaune, cravate de soie. Lucius, le pan.
Léonie, 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 tu nous as fait cavaler comme des chiens. On n'a pas idée de foutre le camp sans prévenir. Tu n'aimes donc pas ta tante? Elle pleure tous les jours depuis ton départ.
Qui c'est ce mec?
Incapable d'émettre la moindre pensée, Léonie. Incapable de se mettre à courir. Incapable d'échapper à la pression hypnotique des yeux du pan. Douleur au ventre, entre les cuisses, muscles durs, hurlements au bord des lèvres.
On va te ramener à la maison, Léonie. On va rendre le sourire à ta tante et reprendre notre petite vie de famille.
Comment?
Les mots de Léonie s'étranglèrent en sanglots. Le sourire ne s'effaça pas des lèvres de Lucius.
C'est lui, avec cette femme noire, non?
Et là, il t'oblige à le...
Le salaud. Elle s'efforçait de juguler le flot torrentueux de ses souvenirs. Elle ne voulait pas plonger son passager dans sa honte, dans sa saleté. Elle refusait de donner d'elle une image aussi dégradante. Mais la présence du pan égayait ses pensées comme un chat une volée de moineaux.
« Comment je t'ai retrouvée ?»«
Léonie, Léonie, une fille comme toi laisse toujours des traces.
Des clients à toi t'ont vu dans le quartier. Ils ont tellement eu peur que tu les dénonces aux flics qu'ils m'ont supplié de te retrouver. Je te cherchais dans tout Paris, Et voilà que le ciel m'a remis sur ta piste. Il suffit de montrer quelques billets pour recruter une foule d'informateurs. On t'a repéré plusieurs fois dans le coin. Je suis heureux, sincèrement, de te revoir, Léonie. Tu es ma fille prodigue.
Lucius désigna d'un coup de menton Johannes allongé sur le sol mouillé. Des rigoles dégringolèrent de son chapeau et s'écrasèrent en gerbe sur le trottoir.
Qui c'est, lui ?
Juste un ami.
Le sourire de Lucius se crispa, puis sa main se détendit avec soudaineté et cingla à toute volée la joue de Léonie.
Tu as tort de te moquer, Léonie. C'est un client, hein ?
Le sang coula dans la bouche de Léonie. L'intérieur de sa joue s'était déchiré sur ses dents.
J'ai plus de clients.
Deuxième gifle, avec le revers de la main cette fois. L'énorme chevalière de Lucius marqua d'une empreinte cuisante la pommette de Léonie. Le pan lui arracha son sac, l'ouvrit, fit un rapide inventaire de son contenu, brandit les billets et le téléphone portable.
Et ça, comment tu l'as eu ?
Les coups de Lucius ravivaient les souvenirs des coups distribués par les clients. Bambou, batte, barre, ceinture, fouet, ongles, bouts incandescents de cigarettes. Les hommes, et parfois les femmes qui les accompagnaient, faisaient preuve d'une imagination sans limite quand il s'agissait de blesser, d'abîmer.
J'ai été payé pour essayer des médicaments.
Lucius leva la main et la main tint suspendue à 30 centimètres de la tête de Léonie.
Te fous pas de moi.
Elle dit vrai.
Gémit Johannes.
L'acolyte de Lucius lui donna un coup de poing au plexus.
Ta gueule, toi, on t'a rien demandé.
Johannes se recroquevilla sur lui-même dans un râle, le souffle coupé.
Léonie, ma Léonie, tu dis des bêtises, siffla Lucius. On gagne pas de fric en jouant les cobayes. Une pute reste une pute.
Il lui saisit le cou entre le pouce et l'index, et pressa jusqu'à ce que sa respiration devienne rauque.
C'est pas bien de garder tout le fric pour toi, Léonie. T'as plus le sens de la famille? T'as pas plus de cœur que les blancs?
Il desserra légèrement sa prise et se tourna vers son acolyte. Fouille-le. L'acolyte palpa rapidement les poches de Johannes et finit par extraire une enveloppe épaisse qu'il tendit au pan.
« Bonne pioche, Paulin !» s'exclama Lucius après avoir entrouvert l'enveloppe.
« Ça ne compensera pas tout à fait la perte, mais ça paiera les frais occasionnés par les recherches. C'est donc ce blanc-bec, ton nouveau macro ?»«
T'es vraiment devenu une bounty, Léonie. Blanche à l'intérieur. »«
Assez perdu de temps. Destinée nous attend. Va chercher la caisse, Paulin. »«
Et lui, qu'est-ce qu'on en fait ?»
Fais-lui passer le goût de piquer le boulot des autres.
Le noir au crâne rasé empoigna Johannes par une mèche de cheveux, lui releva la tête et l'écrasa d'un coup sec sur le bitume, craquement suivi d'un gémissement étouffé. Il recommença à 3 reprises. À chaque fois, le grand hibou abandonnait des dents et une large flaque pourpre sur le trottoir, aussitôt diluée par l'eau ruisselante, nez, bouche, menton barbouillé de sang. Puis l'acolyte se releva et lui flanqua encore un violent coup de pied dans les reins avant de foncer vers une grosse berline noire, dont le moteur continuait de tourner, garé sur le trottoir opposé. Léonie exploita le léger moment d'inattention de Lucius pour lui échapper et partir en courant. Il la rattrapa en moins de 5 secondes et la saisit par le bras.
« Tu voulais encore me quitter, Léonie ?»
Il la frappa une troisième fois, sur la nuque cette fois. Une onde incendiaire parcourut la colonne vertébrale de Léonie. Il la plaqua contre lui en bougeant lascivement. Taper l'excitait.
« Lâche-moi, ou je dirai à ton destinée ce que tu m'as obligé à faire !»
Le pan ne desserra pas son étreinte. Tu ne lui diras pas, parce que si tu lui dis, je te retrouverai où que tu sois, je t'arracherai les ongles un à un, les dents une à une, et tu en baveras tellement que tu me supplieras de t'achever. Fais semblant de lui obéir. Tu dois d'abord endormir sa méfiance. Léonie eut encore 2 soubresauts facilement contenus par Lucius. Puis, devant l'inutilité de ses efforts, elle finit par suivre le conseil de Cyriane et se laissa embarquer sans résistance sur la banquette arrière de la voiture noire qui s'était approchée à leur hauteur. Son regard accrocha une dernière fois le grand hibou, étendu sur le trottoir, dans une mare de sang dispersée par les écoulements. Elle éprouvait pour lui de la pitié. Les effluves de parfums capiteux ne masquaient pas l'odeur de cuir qui montait des sièges de la voiture. Lucius, assis sur le siège du mort, se tourna vers Léonie.
« Tu vois, on t'aurait trouvé une bonne remplaçante, on t'aurait sans doute laissé filer. » C'est que tu commences à être vieille maintenant et que tu n'intéresses plus trop les clients amateurs de chair fraîche. Mais c'est difficile de faire venir des fillettes d'Afrique de nos jours. Les familles en demandent trop. Et puis, les douaniers ne laissent plus passer personne.
Bah, on trouvera bien le moyen de compenser.
Ils sortirent de Paris sous une pluie battante. Un embouteillage monstre paralysait le périphérique. Le dénommé Paulin engageait la voiture dans les moindres failles.
indifférent aux coups de klaxon et aux injures des autres conducteurs. Léonie recouvrait peu à peu son calme. Elle leur avait échappé une fois, elle se débrouillerait pour s'évader encore. Une détermination farouche émergeait de ses pensées, supplantait peu à peu l'affolement des premiers temps, assourdissait son inquiétude. « Mon Dieu, Cyriane, Johan s'a dit qu'ils sont sur le point de déménager ton corps, comment on va le retrouver ?»« Chaque chose en son temps, Léonie. Il faut d'abord trouver le moyen de fausser compagnie au pan. Voilà que je pense comme toi. Il y a une cave dans le pavillon de la hyène, c'est là qu'ils m'enferment quand ils veulent me punir. Nouvelle sarabande de souvenirs pénibles. Du calme, Léonie. On s'en sortira. À deux, on a plus de chances d'y arriver.